Merci d'être venu pour ce débat. Donc nous sommes ici en présentiel et puis il y a des personnes qui suivent aussi le débat sur Internet et qui pourront poser des questions tout à l'heure aussi. Je suis Vincent de Féligonde, je suis le chef du service éco et transition de Journal La Croix. Sur Twitter, je suis tombé sur la photo d'une manifestante hier dans une rue parisienne. Elle brandissait une pancarte « Manu, faut écouter la rue ». Cette jeune femme était l'une des 750 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, et près de 2 millions, selon les organisateurs, qui ont battu le pavé hier pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des chiffres en deçà des précédentes journées, les 19 et 31 janvier, tandis que le nombre de grévistes dans les transports et la fonction publique était en recul. Pendant ce temps, l'examen du texte a commencé lundi à l'Assemblée, se déroulait encore hier et aujourd'hui, dans une ambiance assez houleuse. Le gouvernement a fixé une date butoir au 17 février pour l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Et au passage, les 8 principaux syndicats de l'intersyndicale se sont accordés sur une nouvelle journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites, jeudi 16 février. Mais Cyril Chabanier, vous pourrez nous en parler tout à l'heure. Cette suite de manifestations, qui ne sont pas vraiment nouvelles dans notre pays, pose de nouveau la question des modalités pour un choix démocratique dans notre pays. Comment réformer la France? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'éruptions? Est-ce qu'il y a une mystique révolutionnaire? Est-ce qu'on croit au pouvoir de la rue? Est-ce qu'on a des gouvernements qui sont particulièrement sourds aux aspirations de la population? Nous avons pour ça la chance d'avoir deux intervenants, Nicolas Rousselier, historien et politiste, Cyril Chabanier, président de la CFTC, et puis deux étudiants du Centre Sèvres, Donatien Niembo et Ambroise Dumoulin. Je vais vous présenter les uns et les autres. Je commencerai par vous, si j'arrive à retrouver ma feuille, Nicolas Rousselier, vous êtes né en 1963, vous êtes donc dans la génération des Français concernés par la loi sur la retraite. Mais vous m'avez avoué ne pas avoir encore calculé combien de trimestres vous devrez travailler en plus. Peut-être même que vous allez pouvoir bénéficier de l'aménagement qu'a évoqué dimanche Elisabeth Borne au dispositif carrière longue pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, puisque c'est l'âge auquel vous êtes devenu élève fonctionnaire, je pense que c'est comme ça qu'on dit, de l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Vous êtes agrégé d'histoire, docteur en histoire et diplômé de Sciences Po, où vous enseignez l'histoire politique. Mais votre véritable passion depuis le lycée, c'est la philosophie. Chaque matin, quand vous ne faites pas cours, vous commencez par lire de la philo. Votre dernière lecture est le philosophe Locke, et notamment sa lettre sur la tolérance. Vous êtes très intéressé par l'Angleterre des révolutions du XVIIe siècle. Et vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage de référence sur le pouvoir exécutif en France, La force de gouverner, qui est sorti en 2015, dans lequel vous analysez le passage d'une république ultra-parlementaire, en réaction à la monarchie et Bonaparte, à une démocratie que vous qualifiez d'exécutive avec la Ve République. Dernier point, vous êtes très intéressé par les questions de religion et politique. Religion et politique, oui. Vous êtes protestant, et c'est très important pour nous, nul n'est parfait. C'est pour vous, pardon, nul n'est parfait, mais vous n'êtes pas totalement en terrain inconnu, puisqu'à l'invitation de François Hevet, vous êtes conseiller de la rédaction des études, signe que le contentieux entre jésuites et protestants ne sont pas irrémédiables. Vous envisagez même de consacrer, il y a des restes. Vous envisagez même de consacrer une partie de votre retraite aux questions interconfessionnelles, mais évidemment, nous ne savons pas quand. Et vous ne savez pas quand. Pour vous, pas de doute, Cyril Chabanier, la réforme des retraites s'appliquera puisque vous êtes né en 1973. Mais en fait, vous seriez peut-être déjà arrivé après le rallongement des trimestres cotisés par la réforme Touraine. Non, c'était pas jusqu'à la génération 73, c'est ça? Ouais, déjà. Ouais. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de sciences économiques et d'un DESS en sciences sociales, études à l'issue desquelles vous êtes entré comme chargé d'études à la Caisse nationale des allocations familiales. Comme vous avez un tempérament de meneur, vous prenez facilement la parole. Et très rapidement, vous avez eu la volonté de défendre vos collègues de travail, lesquels vous poussez, et vos idées qui sont nombreuses. Vous êtes donc entré en syndicalisme à la CFTC, un syndicat chrétien où vous retrouviez des amis, des valeurs réformistes qui vous convenaient bien. Assez rapidement, vous avez eu l'ambition de diriger la Fédération Protection Sociale et Emploi, la CFTC, votre secteur d'activité. Mais vous ne rêviez pas en vous rasant devenir président confédéral. C'est Philippe Louis, votre prédécesseur, qui est venu vous chercher, et à 46 ans, vous l'avez succédé. Vous dites qu'il fallait être un peu fou pour accepter ce changement de vie, qui est un vrai choix personnel et familial, et qu'il aurait été fou de refuser un poste qui vous donne l'opportunité de faire passer directement des propositions au niveau du gouvernement. En novembre prochain, vous allez remettre votre poste en jeu. Vous pensez rempiler. Votre prédécesseur a fait 10 ans la tête de la CFTC. Mais ensuite, vous prendrez peut-être votre retraite de chef syndicaliste. On verra. Vous habitez Saint-Rémy en Provence et participez à des débats les soirs d'hiver à Paris. Ça va. Mais durant les mois d'été, ça vous plaît moins. D'autant que vous êtes arbitre de tennis, passion qui, on le sait, se pratique surtout en été. Bon, Cyril Chabanier, est-ce que vous avez manifesté hier? Est-ce qu'il vous irait manifester samedi et jeudi prochain? Où en êtes-vous ce soir? Donc ce qui nous intéresse évidemment, c'est de réfléchir à la façon dont on peut réformer ce pays. Pas évidemment pas au projet gouvernemental où vous auriez tout fait de nous perdre dans des méandres techniques. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, bonsoir à tous, très heureux d'être parmi vous. Donc bien évidemment, oui, j'ai manifesté hier, parce que ce serait quand même bizarre d'appeler à manifester et de ne pas y aller moi-même. Donc je vous confirme que j'étais bien présent et que je serai encore présent le jeudi 16 pour la prochaine date qui a été fixée. Donc vous le savez un petit peu en avance, prévoyez déjà que ce sera une journée difficile pour les transports jeudi prochain. Vous avez remarqué que nous avons collégialement évité de faire une grève le 14 pour vous préserver la Saint-Valentin à toutes et à tous. Nous savons quand même respecter certaines valeurs importantes. Ce qui est important, à la limite, c'est même pas le fond de la réforme, parce que beaucoup de problématiques de cette réforme ne viennent pas du fond, mais viennent de la forme. Et c'est bien le cœur du sujet. Nous avons d'abord un gouvernement qui a décidé de faire une réforme des retraites, une réforme des retraites qui est légitime dans le sens où le président de la République, on peut tous le reconnaître, l'avait dit ouvertement dans son programme. C'est une première chose. Et puis, il avait été décidé au début de l'automne de faire un passage un petit peu en force dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire sans aucune discussion avec les partenaires sociaux. Premier couac, parce que c'est pas parce qu'on annonce une réforme et qu'on annonce même un report de l'âge légal qu'il n'y a pas de tas de choses à côté de ça à discuter avec les organisations syndicales. C'est pas l'alpha et l'oméga simplement de faire un report de l'âge légal. Donc déjà, ça nous convenait pas trop. À force de faire des allers-retours avec les différents ministères et les cabinets et ainsi que l'Élysée, nous avons obtenu que cette réforme des retraites passe quand même par une concertation avec les organisations syndicales. Et nous avons même obtenu, vous voyez, je commence mes propos de façon optimiste, même obtenu de le faire dans un sens qui nous paraissait être le bon. C'est-à-dire d'abord commencer à discuter de la problématique du travail dans notre pays, de l'emploi des seniors, qui est une véritable problématique. Je tiens quand même à le redire, mais une personne sur deux arrive à la retraite et n'est plus en activité dans notre pays. Il faut quand même le savoir, 50% des gens qui arrivent à la retraite sont soit au chômage, soit en invalidité, soit en arrêt maladie. Plus mauvais taux quand même des pays européens, donc il fallait lutter contre ça. Donc une première phase qui traitait de ces questions-là, une deuxième phase qui traitait, à mon avis, de la question cruciale sur les retraites, qui est la pénibilité. Au bout de moment, je crois que, et vous voyez, là encore, je fais une ouverture, je pense qu'on ne peut pas tous partir au même âge selon le travail que l'on fait. Et des études récentes montrent que, selon les métiers que nous faisons, nous avons jusqu'à 16 ans d'espérance de vie en bonne santé, différents selon les secteurs d'activité. Et je crois qu'on peut assez facilement se mettre d'accord sur le fait que quand on a 16 ans d'espérance de vie d'écart, deux personnes qui ont 16 ans d'espérance de vie d'écart en bonne santé peuvent peut-être pas forcément partir tout à fait au même âge. C'est la problématique de la pénibilité. Donc deuxième phase sur la pénibilité, sur les régimes spéciaux, sur les conditions de travail. Et une troisième phase sur le financement. Comment on équilibre le système? C'est qu'une fois qu'on a réglé les deux premières phases qu'on peut parler de l'équilibre du système. Parce que selon le nombre de personnes qu'on met en pénibilité, ça n'a pas le même coût financier. Donc tant qu'on n'a pas réglé ça, c'est compliqué de savoir si le régime va être à l'équilibre ou pas. Et toute la problématique de cette réforme, c'est que sur les deux premiers volets, moi, j'ai pas de difficulté à reconnaître que le dialogue social avec le gouvernement, c'est plutôt bien passé. En tout cas, on a eu un véritable dialogue social. On n'était pas d'accord sur tout, évidemment, mais on a pu discuter de tout, le discuter d'une manière plutôt honnête, avec des chiffres à l'appui. Et là, ça s'est à peu près passé correctement avec des désaccords qu'on peut avoir. Et puis, sur la troisième phase, on a un gouvernement qui nous dit sur la question du financement, sur ça, on ne discute pas. Sur ça, on a choisi que la mesure pour financer, ça serait le report de l'âge légal. Or, il y a des tas d'autres solutions, y compris avec des syndicats comme le mien, plutôt dit réformiste et prêt à trouver des consensus. Alors, vous avez tous entendu parler, on peut jouer sur les cotisations, on peut jouer sur l'âge, on peut jouer sur les pensions, mais pas que d'ailleurs, parce qu'on se fait enfermer dans ce triptyque qui est complètement aberrant, parce qu'on peut jouer sur d'autres choses. Hein. Si on améliore simplement le chiffre tout à l'heure que je vous disais, sur les seniors, si on avait 15% de seniors qui arrivaient à la retraite en emploi et non pas en invalidité ou au chômage, c'est 10 milliards qui rentrent dans les caisses. Quand il en manque 12, le travail il est déjà quasiment fait. On pourrait jouer sur les exonérations de cotisations. C'est quand même marrant qu'on nous dise en longueur de journée que on n'a pas assez d'argent pour financer les retraites et qu'il n'y a pas une journée où l'État annonce qu'il n'y a pas une aide aux entreprises avec une exonération de charges. Ah oui, s'il y a une exonération de cotisations, par définition, il n'y a pas de rentrée d'argent. Ou quand on fait la prime Macron, sans juger même bien ou pas bien, mais la prime Macron qui est donnée où il n'y a pas de charge sociale, pas de charge pour les entreprises, enfin pour personne, et c'est de l'argent qui ne rentre pas. Donc, voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'en dehors du fait d'être d'accord ou pas d'accord sur le report de l'âge, le fait de dire, et c'est là le problème peut-être démocratique ou de réformer, le fait de dire la question du financement n'est pas discutable, ben, si elle n'est pas discutable, il ne reste qu'une solution, c'est le dire fortement au gouvernement pendant les concertations, et ensuite le dire fortement par d'autres solutions comme la rue. Et donc on voit bien qu'il y a ce... un peu ce problème démocratique, parce que être élu sur un programme, ça ne veut pas dire que pendant 5 ans, j'écoute personne. C'est un programme, mais on peut l'amender, on peut changer d'avis, on peut avoir des propositions. Et ça, c'est important. Et puis, il faut que, pour que ça fonctionne et qu'on puisse réformer un pays, il faut que toutes les instances soient entendues et soient respectées. Nous avons, je ne veux pas reprendre le livre que vous avez écrit, mais on a un pouvoir aujourd'hui extrêmement exécutif, c'est vrai. Donc on a un président élu sur un programme, on a un gouvernement qui fait des propositions, qui gouverne. Derrière, on doit avoir un Parlement qui doit être respecté. Et aujourd'hui, le pouvoir du Parlement, j'aurais quand même beaucoup de choses à dire. Si c'est un Parlement juste pour alors une partie qui conteste sans avoir même lu le texte, entre guillemets, et une autre partie qui vote aveuglement, se demande honnêtement à quoi sert d'avoir une Assemblée nationale si on est dans ce cas-là. Donc il faut que chaque instance soit respectée. Toute loi, y compris qui passe au Parlement, est discutée avant dans un dialogue social avec les organisations syndicales, dont encore faut-il avoir envie de respecter le dialogue social et d'avoir envie de discuter avec les organisations syndicales. Et puis, il reste la vie de nos concitoyens, qui est aussi extrêmement important. Et la rue, ça veut dire aussi quelque chose. Et moi, souvent, je dis, on a trois formes de démocratie dans notre pays. On a, alors peut-être que je les appelle mal et vous me reprendrez, mais... pour moi, il y a une démocratie participative qui est importante. C'est quoi la démocratie participative? C'est de plus en plus de nos concitoyens, vous ou moi, qui ont envie de s'exprimer sur ce qui se passe dans le pays. Et on a vu avec les différentes conventions citoyennes qui sont très à la mode, parce que c'est assez marrant, les personnes votent de moins en moins, vous votez de moins en moins, et il y a de plus en plus de personnes qui veulent se faire entendre, en tout cas participer d'une manière à cette vie. Et donc... vous avez vu, tirage au sort de concitoyens dans toutes les instances. D'ailleurs, je dis un mot sur ça, mais ça me fait assez sourire parce que dans toutes les instances maintenant, on tire au sort 5 ou 6 personnes. Alors d'abord, il y a quand même parfois des sujets hyper techniques où la personne tirée au sort a intérêt d'avoir quand même un petit peu de bagage, parce que des fois, je me dis, si tirer au sort ma mère sur la transition environnementale, ça serait peut-être pas forcément évident. Donc bon, voilà, c'est quand même, il y a quand même certains sujets où le tirage au sort, c'est pas évident. Mais soit. Et alors, on nous dit, parce que dans les différentes instances, il faut des citoyens. Moi, je suis président d'une organisation syndicale, mais enfin, le jour où je suis devenu président, j'ai pas perdu mon titre de citoyen quand même. Enfin, ça me fait toujours sourire. Nous avons une instance très importante dans notre pays que personne ne connaît, dont tout le monde s'en fout, et c'est quand même dramatique, même, excusez-moi de mettre un petit tacle tout gentillet dans cette préparation et dans ce débat, j'ai reçu deux questions. Il y avait la place des institutions, etc. Puis après, la place de la démocratie sociale. Et de la société civile. Et en oubliant que...
La place respective des institutions, d'une part, et de la société civile, d'autre part.
De la société civile, d'autre part. Et n'oublions... beaucoup de personnes oublient que dans ce pays, on n'a pas deux chambres. On a trois chambres. On a l'Assemblée nationale, on a le Sénat, et on a le Conseil économique, social et environnemental. On a le CESE, qui font des travaux incroyables de réflexion, qui représentent la société civile, avec des représentants syndicaux, du patronat, des associations, des ONG.
La CFTC est représentée comme telle ?
La CFTC est représentée en tant qu'organisation syndicale. D'ailleurs, dans le CESE, récemment, ils nous ont fait rajouter au tirage au sort une dizaine de citoyens, parce que quand on est dans une association, quand on est dans une ONG ou quand on est syndicaliste, on n'est pas citoyen, donc il faut rajouter des citoyens. Enfin, vous voyez un peu ce mélange qui est quand même assez surprenant. Surtout que les citoyens nous donnent quand même pouvoir, ou nous, les salariés, nous élisent pour les représenter. C'est quand même toujours assez comique. Et on a cette troisième chambre, par exemple, qui font des travaux, je vous assure, extraordinaires, dans lequel d'ailleurs les travaux se passent très bien, parce qu'on est en dehors un peu du monde politique et de la petite phrase et du buzz. Et on se rend compte que dans cette instance-là, que ce soit les ONG, les associations, les organisations patronales ou syndicales, travaillent dans un bon esprit. Même ceux qui sont les plus revendicatifs ou les plus révolutionnaires, excusez-moi de faire un peu de pub pour les réformistes par rapport aux révolutionnaires, mais vous ne m'en voudrez pas. Ça se passe très bien, il y a des tas de travaux qui sont fournis, qui ne sont jamais lus, intéressés par personne, alors que c'est vraiment, enfin, il y a vraiment des idées à foison qui permettraient que le Parlement s'en saisisse et fasse, à partir de ça, voter des lois qui ont déjà été travaillées et qui ont reçu un consensus de la part de la société civile, ce qui serait quand même déjà assez intéressant.
Donc démocratie participative.
Donc démocratie participative, démocratie que j'appelle délibérative, c'est-à-dire que certaines personnes ont un pouvoir de délibération, et par exemple les organisations syndicales ont ce pouvoir-là, parce que ce soit dans une entreprise, que ce soit au niveau de notre pays, nous avons l'habitude de négocier, nous avons l'habitude de prendre des décisions, et donc on doit puiser des ressources, des idées de nos concitoyens, puiser des ressources, des idées des salariés, et peut-être d'ailleurs qu'on ne le fait pas suffisamment. Parfois on oublie qu'on les représente et on ne va pas suffisamment vers eux leur demander leur avis, et je prends ma part de responsabilité. Mais donc des personnes qui sont habilitées au bout d'un moment, non plus de donner des avis, mais de prendre une décision. Et puis il y a la démocratie représentative, on en fait partie aussi parce que nous sommes élus par les salariés, qui sont les députés que vous élisez, qui sont le président que vous élisez. Et je crois que ces trois démocraties, il faut que chacun reste à sa place, mais il faut que les trois trouvent sa place et que les trois soient respectés. Et je pense que ça, c'est extrêmement important.
Merci. Nicolas Rousselier, où en est le débat démocratique dans le pays? Pourquoi est-ce que la France se singularise une fois de plus en se déchirant sur les réformes?
Bon, écoutez, c'est une vaste question. Hein. C'est une question peut-être trop large pour pouvoir répondre. Donc, moi, je propose de faire quelques remarques. Et si vous voulez, c'est pas pour faire un jeu de mots sur réforme protestante ou pas, mais s'interroger sur comment on fait ou on se rend impossible la réforme, pas au sens religieux, au sens la réforme des retraites. C'est ça, je crois, qui est en jeu entre les différentes démocraties. Alors, la démocratie française, c'est la première remarque, face à la question de la réforme, elle a construit avec la Ve République, depuis 1958, une forme originale, voulu par les deux pères de la Constitution, De Gaulle et Michel Debré. C'est ce que j'ai étudié donc sous le titre « Force de gouverner », qui est original dans le sens tel que nous le voyons actuellement, où, si vous voulez, l'impératif de gouverner, c'est-à-dire, si vous me permettez une expression d'apéritif ou de fin de journée, trancher dans le lard. Prendre une décision, le modèle de De Gaulle et de Michel Debré aussi était assez militaire. Il faut prendre une décision parce que on est dans l'action. Donc, si vous voulez, l'action, la décision rapide, donc une réforme au forceps, n'est pas illégitime. Elle choquait les républicains de l'époque, elle choquait Pierre Mendès France, elle choquait François Mitterrand, le coup d'État permanent, mais elle était considérée comme une nouvelle légitimité. La nouvelle légitimité, c'est l'État, le gouvernement, qui finalement contemple les nécessités du moment et fait passer les nécessités du moment, au fond, avant l'expression d'une volonté. Une volonté qui peut être un peu vague, parce qu'il y a des manifestants dans la rue, il y a 70% de l'opinion qui se prononce contre la réforme des retraites, mais c'est relativement vague. Donc, on a installé un modèle au forceps qui a fait, hein, pour faire un peu de jargon, qui a fait une révolution copernicienne. Hein, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la volonté traditionnelle exprimée dans le Parlement, la volonté exprimée autrefois par la représentation nationale, les députés, hein, les députés type 3e, 4e République, ce n'est plus cette volonté qui prime, c'est la nécessité. D'accord ? Donc vous avez un combat nécessité-volonté. Alors, ça se traduit comment ? On le voit, le gouvernement est légitime à formater le débat parlementaire, 10 jours, 15 jours maximum. Placé, vous l'avez dit, dans une filière très particulière, une filière très réduite, ça veut dire que concrètement, le temps du débat, vous parliez de démocratie délibérative, on n'y est pas. On n'est pas dans une délibération parlementaire, parce que la délibération suppose le temps, on se donne le temps. Si c'est long et technique, eh bien, on va dans la technique, on le fait au Parlement, et on ne laisse pas la technostructure décider des détails. Parce qu'en fait, les détails, c'est ce qu'il y a de plus important dans la réforme. Donc, c'est se donner du temps. Et puis, M. Chabannier nous parlait du CESE, mais c'est ce qui ne se passe pas au Parlement, dans les deux premières assemblées. On se donne la possibilité d'un compromis, d'une construction. Moi, ce que j'avais appelé dans mes études sur le parlementarisme de la Troisième République, ma République préférée, des diagonales parlementaires, des diagonales partisanes. Ça, c'est ce qu'ont fait des pays qui ont su faire des réformes de la retraite parlementaires. Vous voyez, des réformes voulues par le Parlement, et puis réellement faites par le Parlement, par des moyens parlementaires. Alors vous avez, actuellement, il n'est plus trop en vogue, mais le modèle suédois, hein, puisque je crois qu'on critique un petit peu le système de retraite suédois. Mais quand vous regardez la forme, la Suède fait une réforme en 2 années, en enfermant pratiquement, hein, comme dans un loft, en enfermant une commission parlementaire avec des conservateurs, des sociodémocrates, des écologistes, en leur disant, bon, je simplifie, en disant, vous avez 2 ans pour trouver une réforme consensuelle.
En enfermant des élus.
Des élus, des parlementaires, ouais, qui auditionnent des experts, mais pas des tirés au sort citoyens, hein, des parlementaires qui parlent au nom de la nation et qui ont quand même de la bouteille et peuvent comprendre peut-être plus facilement les experts. Donc ça dure 2 ans, ça prend du temps, et ça aboutit à un système dans lequel on trouve des éléments sociodémocrates, par exemple un niveau minimal de retraite garanti, mais des éléments aussi conservateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a un système un peu spécial où, en cas de crise économique, les pensions de retraite peuvent baisser. Bon, donc c'est pas génial, si vous voulez, mais c'est un système, ça se rapproche un peu du système que voulait Macron dans le premier mandat. Autre pays, alors là, on attend moins ce pays sur l'efficacité, quand on a des préjugés culturels, l'Italie. L'Italie fait plusieurs réformes de retraite dès les années 90, et comme souvent en Italie, pas toujours, hein, mais c'est des réformes par le Parlement, des réformes du Parlement par le Parlement. Et finalement, ils ont un système, probablement, autant que je peux juger, plus avancé que le nôtre. Donc, nous avons... Il ne faut pas s'étonner, si vous voulez, de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que cette démocratie exécutive, d'une certaine manière, si la réforme est votée, si on passe les 10 jours qui viennent, ben ce sera un succès gaullien, un succès de posthume de Michel Debré, avec des instruments où l'exécutif a la priorité. L'exécutif donne le rythme, construit l'agenda, rationne, si je puis dire, le débat. La nécessité triomphe de la volonté. Alors, un seul avertissement sur cette démocratie exécutive, elle est peut-être actuellement, je ne pense pas qu'il y ait une crise de la cinquième, je ne vois pas la cinquième à bout de souffle, en tout cas d'un point de vue instrumental. Les instruments fonctionnent, en fait. Ce qui peut peut-être être gênant, et même très gênant, c'est qu'au fond, la cinquième, dans sa version exécutive, parlementaire, est peut-être en situation de sur-régime. Vous voyez ce que je veux dire? En surchauffe. On fait surchauffer le 49-3, ou maintenant le 47-1. Et là, évidemment, il pourrait y avoir un succès de l'exécutif, un succès de la démocratie exécutive, si la réforme des retraites aboutit, elle est votée, mais au fond, les instruments qu'on aura employés pourraient ruiner la légitimité de la réforme elle-même. Parce que trop, c'est trop, surtout par rapport donc à l'expression de l'opinion publique, les fameux 70% de l'opinion publique qui sont contre la réforme. Mais ça peut passer. Les instruments sont là.
Et d'ailleurs, il y a, je sais pas, 60-70% de la population qui pense que ça va passer en plus.
Ah oui, c'est ça. Voilà, on a
les gens sont contre, mais ils pensent que ça va passer.
Oui. Les gens sont contre, mais ils sont pas confiants dans leur opposition, au fond. C'est assez curieux. Alors, la démocratie sociale, je vais pas trop en parler. Simplement, quelques remarques. Alors, vous dites que il y a une phase qui a été positive, au fond. Et puis après, une sorte de couperet, c'est pas négociable. Et on l'a entendu de la bouche de la première ministre. Alors, là, la démocratie sociale, c'est une remarque plutôt de citoyen. On peut avoir l'impression que, là aussi, un peu comme la démocratie exécutive, elle est en place. On peut avoir l'impression qu'elle manque, en quelque sorte, d'un ressort fondamental qui serait de... On s'écoute, on se concerte, on entend, mais on pourrait passer à la phase négociation. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire la réforme n'est pas née d'un Grenelle ou d'un Matignon. Donc là, la démocratie sociale, on peut avoir l'impression que la concertation avec les syndicats a été faite pour qu'on ne puisse pas dire qu'elle n'a pas été faite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus un moyen
de précisément
dire...
une concertation, pas une négociation.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment cette impression qu'on peut avoir. Deuxième remarque, cette fois-ci, sur pratiquement... Je m'aventure un peu, parce que moi, personne n'a vraiment une mesure exacte de ce mode de manifester qu'on voit dans la réforme, dans le mouvement social actuel. J'ai l'impression, en lisant beaucoup d'articles, que on met en avant la singularité. C'est-à-dire, on met en avant la singularité des récits individuels et qui marque beaucoup l'opinion. Donc, telle personne va dire « je suis infirmière et j'ai 55 ans et je ne me vois pas du tout travailler à 64 ans. Un chauffeur routier, c'est peut-être encore plus spectaculaire, encore que je ne sais pas. Ce dont je peux parler pour mon épouse, professeure des écoles, elle ne se voit pas travailler jusqu'à 64 ans. Et même, il faudrait qu'elle aille plus loin parce qu'il lui manque des trimestres pour le taux plein. Bon.
Il y en a même qui ne se voient pas travailler du tout.
C'est ça. Bon, voilà. Donc, ici, je pense que il faudra approfondir, mais on a un changement où, si vous voulez, la singularité des expériences remplace peut-être l'universalité des mouvements sociaux classiques quand le mouvement social était lu et était présenté comme une lutte collective, c'est-à-dire en masse, une lutte contre le patronat. On l'entend pas tellement, ça, finalement. Alors qu'il y a pas mal de bénéfices dans pas mal de... Enfin, on l'a un peu entendu de manière démagogique. Donc, ici, il y a peut-être une transformation dans la nature même de la démocratie sociale. J'en viens, ça va, j'ai le temps, Vincent ? J'en viens à mon troisième point, qui est peut-être le plus important. C'est la question de la démocratie citoyenne. Et là, je crois que c'est l'aspect le plus inédit. Si on cherche qu'est-ce qu'il y a de banal, qu'est-ce qu'il y a d'inédit dans le mouvement social, c'est peut-être l'aspect le plus inédit. Cet aspect inédit, c'est que le citoyen, plus que jamais, le citoyen lambda, est plongé dans le brouillard, il me semble. C'est ce qu'on appelle le brouillard informationnel chez les stratèges militaires, hein, parce que l'expression brouillard de la guerre vient de Clausewitz. Et on est effectivement dans un brouillard. Alors concrètement, les chiffres de manifestants, ça devient risible. Je vais prendre ma petite note. Je cite la bonne ville de Marseille, d'où vient ma famille. Donc vous voyez, je ne suis pas anti-marseillais. Voilà, et moi je suis supporter de l'OM comme vous, plus ou moins. Bon, Marseille, 31 janvier, la police annonce 40 000 manifestants, la CGT 200 000. Donc nous avons un multiplicateur par 5. Mardi 7 février, la police 15 000, la CGT 180 000, multiplicateur par 12. Alors c'est vrai, si vous voulez, que on sait maintenant que quand un cabinet indépendant fait le comptage, cabinet occurrence payé par des journaux indépendants, c'est assez proche des chiffres de la police.
Et même inférieur à la police.
Parfois inférieur. Donc là, je vais être antisocial. Bon, rassurez-vous, hein, je ne suis pas ni d'extrême droite, ni de droite, ni quoi que ce soit. Mais bon, là aussi, si vous voulez, à un moment donné, je voyais un journal dit de référence qui hier mettait en titre le chiffre de la CGT. En tout cas, dans la page Internet. Brouillard informationnel. Deuxième exemple, le fameux COR, le Conseil d'orientation des retraites. C'est assez marrant, parce que le Conseil d'orientation des retraites, qui est quand même quand on regarde, c'est un conseil assez nombreux. Il y a un secrétariat général, il y a un président, qui n'est pas n'importe qui a une longue carrière, qui vient de l'Inspection générale des affaires sociales. Bon, très bien. Et puis, ils font beaucoup de travail, ils font un rapport. Et le rapport.
Représentants des syndicats.
Oui, ça, c'est ça. Le rapport nous sort 4 hypothèses. Vous voyez, brouillard de l'information pour le citoyen lambda. Alors, pourquoi 4 hypothèses? Vous ne pouvez pas nous dire de manière indépendante, je vais dire un gros mot, d'une manière honnête, objective, une hypothèse pour que le citoyen se fasse une idée. Faites-vous une idée personnelle avec 4 hypothèses, c'est impossible. Toujours avec le corps, j'ai vu par exemple que l'intervention du président du corps, Pierre-Louis Bras, il a fait une audition à l'Assemblée. Donc c'est intéressant parce que vous avez quelqu'un qui vient apporter son expertise aux membres de l'Assemblée. J'ai écouté effectivement sa présentation. Si vous avez fait Polytechnique, vous n'êtes pas sûr de comprendre. Hein. Voilà. Donc c'était extrêmement compliqué à comprendre. Ça, c'est effectivement le fond de la réforme est très compliqué. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que on est dans le monde des réseaux sociaux. Et donc, on a fait passer sur les réseaux sociaux, ça fait un buzz énorme, un extrait de M. Pierre-Louis Bras, où il dit, bon, vous avez peut-être vu ça, non ? Les dépenses de retraite, c'est pas trop un problème. Ça va aller à peu près.
N'explose pas, oui.
Voilà. Donc, un morceau qui dure 2 minutes, qui a été repris, qui a fait le buzz, et qui, par exemple, a permis à des opposants à la réforme de retraite, le secrétaire actuel du Parti socialiste, pourtant moribond, de dire « Ah, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de réforme de retraite. » En fait, si on va plus loin dans l'audition, le même président du corps parle des recettes. Et là, il commence à dire, ah, les recettes, il y aura des problèmes. C'est assez compliqué à comprendre pourquoi, d'ailleurs. Mais enfin, en gros, il y aura des problèmes de recettes. Donc, il y aura, comment il dit, il ne dit même pas, il y aura un solde, en fait, un déficit. Donc, en réalité, vous écoutez deux façons différentes. Vous avez deux versions complètement opposées. Et ça, c'est coupé, comme du saucisson. La première morceau de saucisson va contre la réforme. Le deuxième morceau de saucisson va pour la réforme. Voilà. Donc, j'estime que là, c'est peut-être l'aspect le plus grave de la crise, en fait, c'est la crise à chacun, pour chacun d'entre nous. Si on peut jargonner, je dirais une crise cognitive. Vous voyez ce que je veux dire ? Une crise de notre capacité de connaissance. À la fin des années 70, au début des années 1980, il y a un philosophe qui était professeur au Collège de France, qui, et parce que c'était sur la fin de sa vie aussi, dans les années exactement 81, 82, 83, 84, il fait des cours au Collège de France sur ce qu'il appelle la parésia, donc c'est un terme grec qui veut dire le dire vrai. C'est Michel Foucault, Et ses cours au Collège de France, effectivement, ce sont ses derniers cours. Et en fait, il abandonne un petit peu son côté révolutionnaire des années 70. On passe aux années 80 et il se pose la question de exprimer la vérité dans le monde contemporain. Au même moment, vous avez Michel Rocard, vous vous souvenez, le Parler vrai, qui essaye effectivement d'introduire une forme de parler vrai, c'est pas gagné, dans la vie politique. Voilà. Là, il me semble, si vous voulez, que on est très loin de cet idéal et qu'on est surtout dans cette crise, au fond, pour chaque individu, chaque citoyen, faire son métier de citoyen. Vous avez un très beau livre de Claude Nicolet qui s'appelle « Le métier de citoyen ». Ça porte sur le citoyen de la Rome antique, de la République romaine. Notre métier de citoyen, enfin, je parle pour moi notamment, j'essaye de me faire mon avis personnel, je ne sais pas si j'y suis arrivé, au fond. Là, je suis dans le brouillard. J'entends très bien toutes les singularités qu'on entend dans les manifestations. Je ne vais pas manifester, je ne fais pas grève. J'aurais tendance, peut-être par, souci de l'éthique, enfin, calvinisme un petit peu, proche de ses sous, en train de me dire, bon, s'il y a un déficit, il faut le combler. Bon, donc j'aurais peut-être tendance à être pour la réforme, mais surtout, ce qui me frappe, c'est mon déficit de capacité à construire mon opinion.
Alors, le métier de syndicaliste.
Quelques réactions aux propos, quand même, parce que c'est presque obligé. Je ne reviens pas sur les comptages. Ce qui sont parfois assez aberrants, je le reconnais. On peut au moins se mettre d'accord sur quelque chose, c'est que les trois mouvements de grève qu'il y a eu ont été trois réussites, que quand on met plus de 1 million de personnes dans la rue, je crois que ça veut dire quand même quelque chose, et ça, c'est important. Et d'ailleurs, ce qui est très inquiétant, j'en profite pour le dire, c'est que, un, vous avez remarqué qu'on sait faire un mouvement de grève, les organisations syndicales, c'est-à-dire c'est maîtrisé, ça se passe bien. Tout le monde a reconnu que c'était plutôt bon enfant, joyeux, pas de débordement, presque trop. On a presque été gênés que le gouvernement nous dise qu'on était joyeux, bon enfant, que ça se passait bien. Ça en devenait presque gênant.
Vous entendez que là, il y a des gens qui disent...
C'est exactement la phrase d'après. Non, mais vous avez bien fait, vous me faites une transition parfaite. Ce qui est dramatique, c'est que quand on a eu au cœur du mouvement des Gilets jaunes, sans juger bien, pas bien, c'est pas la question de ce soir, mais on a eu au maximum à peu près 300 000 personnes dans la rue. Le gouvernement et le président de la République a lâché 10 milliards d'euros quand les 300 000 personnes, alors pas les 300 000, mais quand le mouvement est devenu difficile, violent, qu'il y a eu de la casse, qu'il y a eu... Voilà. Donc 300 000 personnes avec quelques-uns à l'intérieur qui cassent avec de la violence, on répond à la violence, on met 1 million, alors chiffre de la police, oui, je ne prends pas les chiffres de la CGT, chiffre de la police le 31, 1 200 000 personnes dehors, le gouvernement répond, on s'en fout. Donc on a de plus en plus de personnes, y compris moi chez les adhérents, qui disent mais en fait, il faut faire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus que la solution d'être violent, de casser, qui marche pour obtenir des choses. Et c'est très inquiétant parce que ce genre de choses-là, ça mène au populisme, ça mène à des choses qui sont très inquiétantes. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire en sorte. Vous voyez aussi qu'il y a certaines organisations syndicales qui poussent à monter d'un cran, à être beaucoup plus dur, à bloquer, etc. Et je crois que ces trois belles réussites de mobilisation sont trop bloquées. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de blocage, y compris les transports pour les départs en vacances, pour ceux qui ont le chance ou encore les moyens de pouvoir partir en vacances, parce que malheureusement, c'est loin d'être tout le monde. Mais voilà. Donc ça, c'est très inquiétant et ça met en cause aussi le principe démocratique. La deuxième chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est que vous avez raison, le brouillard est un problème permanent aujourd'hui. Vous êtes rendu compte que 100% des partis politiques, 100% des organisations syndicales, 100% des personnes qui prennent la parole citent une partie, une phrase ou un paragraphe du rapport du corps. Donc chacun arrive à trouver la phrase, le paragraphe qui lui va bien dans le rapport du corps. Donc évidemment, pour le citoyen lambda, c'est incompréhensible. C'est puisqu'on trouve tout son contraire. C'est-à-dire que tout le monde se bat avec le même argument qui est la phrase commence par le rapport du corps dit. Très bien, alors c'est même pas que le fait qu'il y ait quatre scénarios, parce qu'à la limite, on arrive à comprendre intellectuellement qu'on fasse un scénario catastrophe, un scénario très optimiste et un scénario moyen. Jusqu'à là encore, le brouillard, on arrive à le lever. Mais quand 100% des personnes qui disent tout et leur contraire prennent le même rapport, c'est incompréhensible. La troisième chose, c'est on dit on peut plus réformer dans ce pays. Mais moi, je vous dis franchement, j'étais un des premiers, et mon syndicat est un des premiers à dire, on veut une réforme des retraites. Donc la bagarre, elle n'est pas entre ceux qui veulent une réforme et ceux qui ne veulent pas une réforme. Moi, je vous dis franchement, je pense que le système des retraites actuel est un système extrêmement injuste. Extrêmement injuste. Et nous avons des femmes avec des carrières hachées, mal payées, etc. Il faut savoir que dans ce pays, nous avons 120 000 personnes. Il y a à peu près 600 000 départs à la retraite par an, chaque année, de la part de notre population. 120 000 personnes sont obligées d'attendre 67 ans, parce que tout le monde parle de l'âge légal de départ à la retraite. Il y a un âge qui est encore plus important, c'est l'âge d'annulation de la décote. C'est-à-dire, si vous n'avez pas vos trimestres, ben on annule votre décote et donc vous avez droit à un taux plein qui est 67 ans. Sur ces 120 000 personnes, on a 95 000 femmes, dont tout le monde se fout, personne n'en parle. Si on trouve que c'est un système hyper juste, parce que malheureusement, les trimestres sont pas pris en compte lors de maternité, parce qu'elles ont des carrières hachées, parce que souvent, quand il y a des moments d'arrêt, c'est encore aujourd'hui les femmes qui s'arrêtent pour élever leurs enfants, pour par rapport à l'homme, pas parce que c'est forcément la femme, mais souvent, quand un des deux doit s'arrêter, on fait arrêter celui qui a le plus petit salaire des deux. Et que malheureusement, dans notre pays, c'est encore quand même souvent la femme qui a un salaire plus petit que l'homme, donc c'est elle qui s'arrête. C'est pas qu'on veut faire arrêter la femme pour la mettre au foyer, hein. C'est que simplement, c'est très rationnel, on fait arrêter celui qui a le plus petit salaire des deux. C'est aussi bête que ça. Voilà. Personne ne parle de ça. Les régimes spéciaux, excusez-moi les amis, mais les régimes spéciaux, c'est juste une aberration. Moi, je suis contre les régimes spéciaux. Je suis un syndicaliste contre les régimes spéciaux. Vous voyez, donc il y a des syndicalistes qui peuvent dire ce genre de phrases-là. Parce qu'il y a quand même des choses, excusez-moi, je prends un exemple ou deux, mais aujourd'hui, vous prenez le régime de la SNCF. Toutes les personnes qui ont un métier pénible à la SNCF ne sont plus dans le régime spécial de la SNCF. C'est-à-dire les personnes qui posent des voix à l'extérieur, je peux vous dire que poser des voix, je suis allé les rencontrer, c'est un vrai métier pénible. Quand il fait froid, quand il fait chaud, les rails, c'est un poids incroyable. Voilà. Ils sont déjà tous extériorisés, ils ne sont plus régimes spéciaux de la SNCF, ils partent à 62 ans. Donc, tous ceux qui restent régime spécial de la SNCF, c'est quasiment plus que des personnes qui sont dans les bureaux, qui, eux, partent à 57 ans. Je ne fais pas de provocation en disant ça, mais il faut quand même dire des choses. Je pense que s'il y a bien des personnes qui mériteraient un régime spécial et de partir plus tôt, c'est celui qui pose les rails, pas celui qui est dans un bureau. Enfin, voilà. Ben, c'est tous ceux qui ont un régime, ils sont sortis du régime spécial. On prend la RATP. Moi, la question, c'est pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand je dis fin des régimes spéciaux, ça ne veut pas forcément dire que je veux les faire travailler jusqu'à 62 ans. La question, elle n'est pas là. Mais on regarde les métiers à la RATP. Ceux qui ont des métiers pénibles, on les fait partir plus tôt. Ceux qui n'ont pas de métiers pénibles, ils partent en âge. C'est la pénibilité qui doit tenir. Mais quand vous êtes chauffeur de métro à Paris et quand vous êtes chauffeur de métro à Marseille, à la RTBM, vous partez avec six ans d'écart les deux. Ils font le même métier, ils ont les mêmes contraintes. Moi, je ne sais pas à quel âge ils doivent partir. Peut-être qu'on peut dire qu'il faut faire tourner les métros tard le soir, tôt le matin, qu'on travaille les jours fériés, le dimanche, et que tout ça doit rentrer dans la pénibilité, qu'il doit partir à 58 ans, ou 59 ans, ou 57 ans. Je veux dire, je ne sais pas à quel âge on doit en discuter. Mais la chose que je sais, c'est que le chauffeur de métro à la RATP à Paris ou le chauffeur de métro à Marseille doit partir au même âge, ils font le même métier. Et quand je dis ça, vous avez bien compris, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils doivent tous partir à 62. Je dis qu'il doit partir au même âge. Et qu'est-ce qui détermine l'âge ? La pénibilité. Point. Moi, je veux dire une chose, même à titre personnel, j'ai pas de problème pour travailler un an ou deux de plus. Je pense pas avoir un métier pénible, même si je fais 14 heures par jour, que je trouve. Enfin, parce que quand vous parlez de pénibilité, 100% des Français ont un métier pénible. Et ça, c'est, voilà, 100%. Psychologique ou physique ou truc, ou j'ai un chef à la con, ou j'ai pas quoi. Enfin, on a tous un métier pénible. Et il faut différencier le fait d'avoir tous de la pénibilité dans son travail et d'avoir une pénibilité qui doit faire que vous devez partir plus tôt à la retraite. C'est pas la même chose. Voilà, c'est deux choses qui sont différentes. J'ai de la pénibilité dans mon travail. Parler avec Elisabeth Borne et Elodie Dussopt 2 heures par jour, c'est extrêmement épuisant. Mais je pense pas que ça nécessite que je parte 2 ans plus tôt à la retraite. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment très très important. Et je crois que ça, c'est... Et dernière chose que je voulais dire, c'est... Donc voilà, excusez-moi, c'était pour vous dire que réformer, je pense que moi je suis pour un régime. J'étais pour et on soutenait le programme des retraites de 2017. Oui, je reste persuadé qu'un régime universel par points est le régime le plus juste. Après, on n'était pas d'accord sur certaines choses. L'introduction de l'âge pivot par le Premier ministre a été une erreur, surtout avec une décote pérenne. C'est-à-dire, quand il vous manquait un an, vous preniez une décote pendant toute votre vie. Parce que quand même, les organisations syndicales qui gèrent la GIRC-ARCO, le régime complémentaire, ont mis un système qui est proche du point.
De décote pendant 3 ans.
Ont mis un âge pivot. C'est-à-dire, les mêmes qui gueulent matin, midi et soir, comme la CGT, ont à la GIRC-ARCO mis un âge pivot. Et c'était quand même impressionnant. Seulement, ce qu'on a fait à la GIRC-ARCO, c'est que quand il vous manquait un petit peu, on avait un âge pivot et vous aviez une décote qui était provisoire. Et le problème qu'il y a eu avec l'ancienne réforme, c'est que si vous manquez un an ou deux, vous preniez une décote pérenne tout au long de votre vie. Donc si vous viviez encore 25 ans, si vous aviez la chance à 62 de vivre jusqu'à 87 ans, vous preniez la décote pendant les 25 années, ce qui était complètement aberrant. Mais on ne peut pas être contre le principe d'un âge pivot quand dans le régime Agir-Carco, les organisations syndicales ont mis un âge pivot. Enfin, il faut quand même avoir peur de rien pour dire ça, quoi. Voilà. Et en plus, moi, j'avais obtenu du Premier ministre dans nos négociations l'assurance que si on mettait un âge pivot, l'âge d'annulation de la décote, c'est-à-dire les 67 ans, revenait à l'âge pivot à 64 ans. Et donc, on avait ces fameux 120 000 personnes, dont 95 000 femmes, qui gagnaient 3 ans de départ à la retraite anticipée. Vous voyez, donc voilà. Donc réformer, on peut le faire. Mais le problème dans ce pays, et je finis sur ça, c'est que et c'est la culture de mon syndicat, on essaie d'être réformiste, d'être dans le consensus, dans le compromis, on essaie de ne pas être dans l'exagération, d'être honnête pour reprendre le texte que vous avez fait. Alors après, j'ai mon côté marseillais qui, évidemment, annule un petit peu toutes c'est pour garder un équilibre. Mais on n'est plus dans le consensus. On ne peut plus construire des compromis aujourd'hui. Et c'est ça qui est catastrophique. Et pour réformer, on ne réforme bien que lorsqu'on est dans la discussion honnête et dans le compromis. Et vous voyez, c'est aujourd'hui le buzz des petites phrases. Ce qui est le plus important dans une négociation, c'est d'avoir le buzz qui permet de faire le tweet. Voilà. Je veux dire, c'est ça qui est principal. Dans les journaux, c'est ça. Hier, il y a eu des tas à l'Assemblée nationale, des tas d'interventions hyper intéressantes sur le fond. Il est passé matin, midi et soir, uniquement l'intervention de... Non, j'allais dire l'autre fou, mais excusez-moi, j'allais me lâcher, de Louis Boyard, je ne sais pas comment il a pu être élu député, sur la police tue, avec la réponse de Darmanin, la bordélisation de la NUPES. Enfin, l'échange Boyard-Darmanin, c'est ce qui est passé 8 fois par heure à la télévision, alors qu'il y a eu des tas d'heures d'échanges hyper intéressants sur des questions de fond. Parce que ça fait spectacle, ça fait le fond. Donc dans les négociations, et tout à l'heure vous me demandiez de parler, je vous dis ça, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais je me suis toujours fait une règle, c'est que ce que je dis dans le bureau de la Première Ministre ou du Président ou d'Olivier Dussopt, je dis à peu près, mais à 90%, la même chose quand je sors devant la presse. C'est-à-dire, il y a des syndicats, quand vous savez ce qu'ils ont dit dans le bureau et quand vous voyez ce qu'ils disent dans la presse, c'est impressionnant. C'est juste pour faire la petite phrase. Donc comment on réforme ce pays si on n'est plus dans la discussion, dans le compromis, dans le consensus? Voilà. Et même sur les retraites, j'ai fait partie des gens qui ont dit on ne va pas discuter 20 ans sur le rapport du corps, si c'est 8 milliards, 10 milliards, 14 milliards, allez, on a dit 12. Je prends. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les 12, mais allez, je les prends. Je leur ai dit simplement, les 12 milliards, on peut les trouver sans faire les 64 ans. C'est pareil quand on passe le temps de nous dire, oui, mais les autres pays, ils ont allongé, mais on s'en fout qu'ils aient allongé ou pas. La seule question importante, c'est qu'on ait un régime équilibré. Donc comment il nous manque 12 milliards en 2025, comment on trouve 12 milliards pour équilibrer le système? Discutons de comment on trouve ça. C'est la seule question qui est intéressante. Si on trouve les 12 milliards sans faire le report de l'âge, ben, tant mieux. Et au pire des cas, si on ne les trouvait pas, ben, peut-être qu'il faudrait l'envisager, mais on a des solutions pour les trouver. Voilà. Cette recherche de consensus, aujourd'hui, de compromis, n'est plus dans la culture de notre pays. Voilà. Il n'y a aucune recherche au niveau du Parlement. Le dialogue social par le gouvernement, il a été mis de côté pendant les 2 premières années. Le gouvernement est revenu vers les organisations syndicales au moment des Gilets jaunes, parce qu'ils se sont rendus compte que à qui on parle aux Gilets jaunes, puisqu'il n'y a pas de meneur, il n'y a pas de personne à qui parler. Parce qu'aux Gilets jaunes, dès qu'il y en avait un qui voulait être le meneur, il se faisait flinguer. Donc, parce qu'ils voulaient tous être meneurs, donc le mieux, quand on veut tous être meneurs, c'est que personne soit meneur. Voilà. Donc, et là, c'était vite les organisations syndicales, mais comment on fait, est-ce que vous pouvez intervenir, parce que là, il y a des Ben, la CFTC, il y a un président, à la CGT, il y a un secrétaire général, donc on sait qui est téléphoné. Voilà. Et vous voyez, c'est ça qui est dramatique. Mais on peut réformer le pays si tout le monde est respecté, si tout le monde est à sa place, si tout le monde est écouté, et si on est réellement dans une envie d'essayer de chercher un compromis. Ce qu'ils ont fait en Suède, ils ont trouvé un compromis. Le régime n'est pas parfait, mais dès le départ, tout le monde s'est mis d'accord en disant « on va au moins essayer de trouver un compromis ». Et c'est bizarre, quand tout le monde démarre une discussion en disant « on va essayer de trouver un compromis », 9 fois sur 10, on trouve un compromis.
Nicolas, je vais peut-être passer la parole aux étudiants. Ouais. Alors, on commence par qui ? On commence par Ambroise ? Ouais. Donc Ambroise, vous avez 33 ans, donc la retraite, c'est pas pour tout de suite. Vous êtes étudiant en cinquième année au premier cycle du Centre Sèvres. Vous êtes éducateur de formation et vous êtes actuellement adjoint en pastoral scolaire. Vous êtes représentant du personnel et délégué du syndicat CFDT. Vous avez été délégué syndical de CFDT pendant 5 ans. Voilà, donc
merci.
Vous avez la parole.
Merci de me donner la parole. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et merci déjà pour nos deux interventions très riches. Je commencerai d'abord par reprendre ce que disait Monsieur Rousselier tout à l'heure de citoyen lambda dans le brouillard. J'aime bien cette expression parce que j'avoue que sur la réforme des retraites, je ne suis pas un politique, je suis adhérent à la CFDT bien évidemment, mais je ne suis pas non plus un technocrate. Évidemment pour moi, voilà.
Demain, ça pourrait
changer. Pas pour la CFTC, rassurez-vous. voilà. Et tout ça pour dire que je pense qu'en tous les cas, il y a un certain nombre de citoyens qui ne comprennent pas grand-chose à cette réforme des retraites. Et je pense que je me situe dedans, malgré mon intérêt pour la politique et pour la vie de notre pays. Je crois que nous sommes depuis quelques jours dans un univers social où la mobilisation forte contre la réforme des retraites révèle un grand malaise. En partageant avec les uns ou avec les autres, en manifestation ou ailleurs, il me semble que les personnes grévistes et ou dans la rue ne se mobilisent pas seulement contre cette réforme. Derrière ce projet politique, la question est plus large sur, entre autres, ce que l'on veut faire de nos vies quand on ne travaille pas. Ces questions se posent encore plus après la pandémie du Covid, où nos repères, je crois, ont été complètement changés et bouleversés. Et je perçois ici, particulièrement sur cette réforme des retraites, 3 aspects d'ordre éthique. Le premier, c'est le rapport des Français à l'argent. Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. Et en particulier à l'argent public et à ce qu'on en fait. Le deuxième, c'est le rapport au travail, et c'est la question de savoir pourquoi nous travaillons et de quelle manière. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre après le travail? Peut-on encore profiter de nos proches, de nos passions quand nous sommes plus âgés? Et puis le troisième aspect éthique, c'est le rapport à la mort. Quel temps reste-t-il pour le repos et en bonne santé après une vie à avoir travaillé, et parfois avec des métiers pénibles, et je pense ici, vous l'avez déjà un petit peu dit tout à l'heure, aux soignants, aux femmes de ménage, aux éducateurs, et j'en passe. J'en viens ici à la question de la démocratie, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir, et de comment nous pouvons comprendre, la comprendre et l'exercer. La démocratie, c'est selon Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La spécificité d'un système démocratique, c'est que les gouvernés sont censés être en même temps des gouvernants, associés aux principales décisions engageant la vie de la cité. Nous pouvons demander si c'est encore bien le cas chez nous. Une démocratie, nous le savons, ce n'est pas qu'un vote. La démocratie se joue au Parlement, et on le voit depuis le début de la semaine, particulièrement sur cette réforme, mais également, je crois, lors des grandes mobilisations sociales qui se sont joués dans la rue, et l'histoire de notre pays le montre. De plus, nous voyons depuis quelques années beaucoup de citoyens qui se mobilisent et qui mettent en cause cette démocratie-là, telle qu'elle est établie actuellement. Je pense au mouvement de Nuit Debout en 2016, Je pense au mouvement des Gilets jaunes, sans compter les actes de désobéissance civile pour la cause écologique que l'on voit régulièrement. D'autres de nos citoyens ou de nos concitoyens, au contraire, n'ont plus confiance dans la politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire de vie de la cité. Et déserte, nous le voyons bien, les urnes, les syndicats, etc. Il y a, je crois, et vous l'avez déjà rappelé, plusieurs modalités à notre système démocratique. J'en vois ici. Moi, j'en ai compté quatre, sans être un spécialiste. Tout d'abord, le pouvoir en place, et particulièrement le gouvernement. Un gouvernement qui, je crois, a été élu davantage dans un rejet de l'extrême droite que dans un vote d'adhésion à son projet. Et puis, nous pouvons ressentir un certain malaise sur la manière dont ce pouvoir exerce la démocratie. Je crois qu'une dizaine de 49.3 a été utilisée au mois de décembre par ce même gouvernement. Vous en faisiez référence tout à l'heure. Ensuite, le Parlement, qui, nous l'avons vu en début de semaine, est le théâtre à la fois des tournures de phrases, mais surtout, je crois, d'un véritable débat qui est à la fois technique sur la réforme des retraites et à la fois éthique. Les syndicats, qui, je le dis en rigolant, sont pour une fois unis, tous unis derrière le rejet de cette réforme. Et enfin, la rue, symbolisée ces dernières semaines par 1 million, 2 millions de personnes et qui font penser aux grandes manifestations sociales que nous avons connues dans ce pays, en 1996, en 2003, en 2006, en 2010 et à d'autres occasions. Je termine ici ma brève intervention par plusieurs questions à nos intervenants. Nous voyons à l'occasion de cette réforme, mais plus largement depuis quelques années en France, une fragilisation de la parole politique. Alors, est-on dans une impasse démocratique ? Quelle légitimité y a-t-il pour le pouvoir en place et plus largement pour nos institutions, les syndicats, les parlements ? Et enfin, que faudrait-il pour que les Français, et je pense ici particulièrement aux plus jeunes, qui sont souvent absents des urnes, retrouvent confiance dans le politique ? Merci beaucoup.
Qui veut répondre ? Sommes-nous dans une impasse démocratique ?
Pour la réponse, il y aura peut-être moins de temps pour le public.
Allez-y.
Je ne crois pas qu'on soit dans une impasse démocratique. Parce que la démocratie n'est pas un cadeau descendu du ciel qui soit facile. Donc, elle est frustrante, est toujours déceptive, c'est-à-dire qu'on est toujours déçu. Parce que justement, quand on entre dans une discussion, une délibération, un compromis, on n'obtient pas le gros morceau du gâteau. Non, si on prend des critères un peu concrets, il y a un fonctionnement des institutions. En tant que tel, hein, y compris dans son aspect qu'on peut ne pas aimer, qu'on peut trouver autoritaire, 49.3, ces institutions fonctionnent. Voilà. Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, que je n'avais pas eu le temps de présenter et qui ajoute à cette image de brouillard informationnel et de brouillard du citoyen moyen, c'est la crise, pour ne pas dire la disparition des partis politiques. Ça, c'est un élément inédit. On a eu ça en Italie. C'est pas génial, l'Italie, actuellement, pas simplement pour leur foot, mais aussi pour leur gouvernement. Mais on n'a pas ça dans d'autres pays. Alors, ça, c'est inédit. Et qu'est-ce que ça nous coûte ? Ça nous coûte le fait que dans le débat parlementaire, le débat public, il n'y a plus la production d'idées un peu centralisées, un peu vertébrées par un débat d'idées qui se fait dans un parti politique. Alors, il ne faut pas que le parti politique ait 4 000, 5 000 ou même 20 000 adhérents. Parce que 20 000, là, vous voyez que je pense au PS, hein. 20 000 adhérents sur toute la France, ça ne permet pas de faire le débat. Ça fait que les cellules, les sections ne produisent plus. Donc, la production d'idées est externalisée maintenant au think tank et ne sont plus formulées par la vie politique. Donc ça, c'est très inquiétant. La vie politique ne formule plus des contre-projets. Alors, peut-être les syndicats, mais pas les... Les syndicats ont encore une structure de permanence. Mais les partis politiques sont dans une crise, pratiquement une crise de disparition. Ils ne sont pas remplacés par de nouveaux partis. Ce qui les remplace, ce n'est pas des partis. C'est des mouvements dispersés, dispersifs, où chacun y va de son buzz. Finalement, le débat politique revient à interroger Madame Sandrine R, Monsieur François R. Ce mouvement ne remplace pas. Voilà. Donc, je ne veux pas jouer aux vieux combattants, mais la nouvelle gauche ne remplace pas ce qu'a été le PS dans sa grande époque. Évidemment, Ambroise, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais c'était les grands congrès avec différentes motions et ces motions étaient vertébrées, étaient fondées sur une tendance. Même à la grande époque marxiste, pourquoi pas. Donc ça, c'est un point inédit, original. La France partage ça malheureusement avec l'Italie. Ce serait un point peut-être le plus inquiétant.
Cyril, vous avez quelque chose ? Une réaction ?
Oui, juste quelques mots. Moi, je crois pas que la démocratie soit en danger, etc. Enfin, elle peut être un petit peu en danger, mais souvent quand j'entends dire matin, midi et soir, on n'est plus dans un pays démocratique, j'ai envie de dire aux gens, prenez l'avion, allez dans quelques endroits, vous allez voir ce que c'est de pas être dans un pays démocratique. Hein. J'en profitais de ta remarque pour plus généralement, certaines personnes vont jusque là. Pour dire qu'on n'est plus dans un pays démocratique. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre l'avion en ce moment, c'est pas très écologique, peut-être le pédalo, mais en tout cas, en allant un petit peu plus loin, on se rend compte que la démocratie est quand même toujours bien présente. Après, on a un problème de fond, c'est que la parole publique n'est plus crédible. Voilà. Au bout d'un moment, quand on dit des choses qui sont pas la réalité, quand on passe le temps à être dans la caricature. Quand on est plus à la recherche, comme tout à l'heure je disais, de compromis ou de consensus, mais que la seule chose qui nous motive, qui motive certains le matin en se levant, c'est de faire le buzz, et qu'on est en permanence dans la caricature, il faut pas s'étonner que les gens n'aient plus envie d'aller voter, quoi. Clairement, ou aient moins envie d'aller voir les organisations syndicales, même si honnêtement l'ensemble des organisations syndicales se portent pas si mal que ça. On arrive à en faire encore pas mal d'adhérents. Le problème qu'on a à peu près collectivement, c'est que on fait autant d'adhérents chaque année que ce qu'on en perd chaque année. Donc, grosso modo, on bouge pas, quoi. Voilà. Mais certains disent qu'ils n'arrivent plus à faire des adhérents. Non, c'est pas qu'on n'arrive plus à en faire, c'est que c'est très volatile. Et chaque année, le solde de combien j'en ai perdu et combien j'en ai gagné, il est quasiment nul. Voilà. Donc, je crois que, voilà, avoir de véritables projets, ce qui manque aujourd'hui. Enfin, la pauvreté des programmes et des projets qui nous sont proposés par rapport à il y a 20 ou 30 ans, où c'était beaucoup, tu l'as très bien dit, c'était beaucoup plus bâti, fourni, etc. Donc la pauvreté des projets, une parole qui n'est plus crédible parce que pendant des années, on nous disait blanc et on faisait noir. Donc au bout d'un moment, voilà. Le fait que les gens ne voient pas dans leur quotidien des changements quand ils changent de majorité, c'est souvent un vrai problème. Alors à la limite, on peut reprocher certaines choses au président actuel, mais il a plutôt dit ce qu'il est, voilà, il a plutôt dit ce qu'il allait faire. On n'est pas toujours content sur ce qu'il dit, mais sur ça, on peut pas trop dire qu'on a été pris à revers. Voilà. C'est au moins, serait-ce que ça, un avantage. Donc voilà, donc c'est très problématique, et je crois que vraiment ce que je disais tout à l'heure, si on change pas de mentalité, si on change pas sur le fait de vouloir avoir de vrais projets. Il y a aussi quelque chose qui est terrible dans la société actuelle, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire que tout ce qui se fait, c'est on réfléchit à quelque chose pour le faire dans la journée, dans la semaine, ou etc. Il n'y a plus personne qui prend le temps de dire je réfléchis, je me projette et je crée quelque chose sur les 5, 6, 7, 8 prochaines années. Tout doit être comment je résous... Voilà, j'ai une proposition pour résoudre un problème d'aujourd'hui et je reste dans l'immédiateté. Et tout ça, il va vraiment falloir changer radicalement. Sinon, je crois que demain, on aura certaines surprises aux prochaines élections.
Je vais passer la parole à Donatien. On a parlé de démocratie. Donc vous êtes scolastique jésuite de la RD Congo. Vous avez 26 ans. Vous êtes étudiant en première année au Centre Sèvres à la Sorbonne en master philo. Et vous avez été au Vatican, à Vatican Média, et donc vous avez le témoignage d'une vision, d'une expérience tout à fait différente de manifestations et de processus démocratiques au Béret.
Voilà, je ne suis pas français, on l'a compris. Hier, j'ai pas eu cours à la Sorbonne à cause de la grève et de la manifestation.
Grâce à la grève.
Ah ouais. Et un ami m'a dit, tu vas t'habituer.
Mettez le micro comme ça contre vous.
Un ami m'a dit, tu vas t'habituer, hein, tu en auras beaucoup les manifs en France. Il a dit bon. Alors je lui ai dit, mais t'inquiète pas, moi je viens d'un pays où les manifestations, j'en ai quand même connu, donc c'est pas nouveau pour moi. Alors si vous me permettez, j'ai fait un peu, je vous déplace un peu du contexte français que je ne maîtrise pas, vers le Congo, Kinshasa, pour voir comment les manifestations ont aidé à bouger les choses. Alors, d'abord, il faudrait essayer de placer le contexte. Nous sommes dans, c'est un pays au régime semi-parlementaire. On peut aussi dire semi-présidentiel, mais où le président, le gouvernement, ils ne peuvent absolument rien faire sans le Parlement. Alors, ça c'est très important, mais il arrive très souvent que le parti au pouvoir ait la majorité au Parlement. Alors, ça signifie en gros que les projets qui sont d'abord discutés dans le parti passe facilement parce que très souvent les débats au Parlement, ça a déjà été fait dans le parti, donc c'est juste un peu, j'allais dire, de la farce.
Formalité.
Mais une formalité, voilà. Merci pour le mot. Alors vous ajoutez à cela le fait que la Cour constitutionnelle du pays, qui a 9 juges chez nous, 3 désignés par le président de la République, 3 par le Parlement et 3 qui viennent du Conseil de la magistrature, ont un grand pouvoir, naturellement. Mais lorsque le président a la majorité au Parlement, ça veut dire qu'il contrôle pratiquement 6 juges de la Cour constitutionnelle. Et ça, ce sont les règles de la démocratie chez nous. Mais on arrive à une situation où, lorsqu'il y a un projet de loi, et notamment en 2016, il y a eu un projet de loi, entre autres, le projet de loi permettrait, aurait permis au président d'alors de briguer un troisième mandat qui serait alors contre la Constitution. Alors, nous savions qu'au Parlement, il avait sur les 500 députés, il en avait plus de 300, en tout cas de son parti. Ce serait passé sans problème. À la Cour constitutionnelle qui devait, en dernier ressort, décider, il en avait au moins 6, donc ce serait aussi passé. Et donc, la population qui était contre, il faut le dire, ce projet de loi, se retrouve dans une situation où on est coincé et on ne peut rien faire parce que si nous laissons le jeu, entre guillemets, démocratique suivre son cours, on nous imposerait des choses que nous ne voulons pas. Alors, il faut vraiment se placer dans ce contexte-là et au Congo, particulièrement, c'était étonnant, mais c'était l'Église, les évêques qui ont déclenché le mouvement. Je me rappelle que l'archevêque, moi j'étais à Kinshasa, l'archevêque de Kinshasa de l'époque, le cardinal Monsengo, a fait une déclaration pour dire que les médiocres doivent dégager. Et la conférence épiscopale a fait une lettre adressée aux chrétiens, aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté. Il disait, nous ne devons pas laisser le pays entre les mains d'une minorité qui veut s'éterniser au pouvoir. Alors, prenez-vous en charge. Et les universitaires catholiques, un groupe d'universitaires catholiques s'est réuni pour dire, les évêques nous ont écrit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont créé ce qu'ils ont appelé les comités laïcs de coordination. Et ce comité de laïcs a organisé des manifestations, des marches. Alors, ça partait vraiment des églises, les dimanches après la messe dominicale, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il faut avoir en tête que c'est pratiquement 100 millions d'habitants et que les catholiques représentent plus de 40%. Et donc c'était quand même une grosse machine qui s'est mise en marche, et pas que les catholiques, le reste de la population qui était contre ce projet de loi a rejoint les catholiques, et c'était un mouvement très grand. Malheureusement, dans la situation de mon pays, en ce moment-là, il y a eu la répression de ces manifestations. Ça a conduit à des morts, à des blessés, malheureusement. Et moi, j'ai l'impression que j'ai eue, c'est que le gouvernement, les autorités, disons, ils sont tombés dans leur propre piège en voulant réprimer les manifestants. Ils ont attiré l'attention sur ce qui s'est passé. Et donc, ils n'en pouvaient plus, ils ont reculé, ils ont retiré leur projet de loi, et le président s'est retiré, il n'a pas pu se représenter. Et donc, c'est un exemple pour dire que les manifestations peuvent contraindre les autorités à agir. Mais pour moi, c'est quand même une question, parce que là, on a parler de cela en termes de crise de démocratie. Mais moi, je me pose la question. Ambroise a cité Lincoln, la démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais lorsque le peuple veut participer au débat public, lorsque le peuple veut manifester sa volonté, alors on dit, on ne parle plus de démocratie, on parle de crise de démocratie. Mais c'est une contradiction, à mon avis. Alors, la question que je porte et que je voudrais poser, c'est que quel serait le mécanisme pour que la population, le peuple, continue à réclamer, à contrôler le pouvoir en dehors des élections? Parce que ça ne doit pas s'arrêter aux élections. On a donné carte blanche et puis on attend les 5 prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les manifestations, surtout aujourd'hui dans mon pays, c'est généralement pacifique, les manifestations. Mais comme vous le disiez, lorsque les manifestations sont pacifiques, en tout cas chez nous, ça ne produit aucun effet parce que ils vous laissent marcher calmement et ils savent que bon, après vous rentrez chez vous, les choses continuent. Voilà. Finalement, comment contraindre les autorités à plus de sens de redevabilité entre les échéances électorales? Voilà.
Quand j'ai une question difficile, j'ai bien compris, c'était pour moi. D'accord. Je ne suis pas sûr d'avoir la solution. D'ailleurs, si on arrivait à contraindre le gouvernement sur la question qu'une fois que je suis élu, j'ai pas forcément un blanc-seing pendant les 5 ans qui arrivent, si on savait le faire par la discussion, par le consensus, par le compromis, par le dialogue social par exemple, ou le dialogue avec les citoyens, on n'aurait pas besoin, comme aujourd'hui, de se retrouver dans la rue et de faire des manifestations. Donc il y a évidemment la manifestation, mais ce qui est, et tu l'as très bien dit, ce qui est quand même un vrai problème, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années, on a l'impression qu'aujourd'hui, si la manifestation se passe bien et qu'elle est pacifique, elle ne produit aucun effet. Donc j'ai peur que le pouvoir du peuple demain se fasse que par un pouvoir agressif et violent. Et pour moi, ça ne sera jamais la bonne solution. Il y a une autre question qu'on n'a pas parlé, démocratie, qui peut régler parfois des problèmes, c'est le référendum populaire, qui est une question qui est mise sur la table. J'en suis pas forcément un grand fan à titre personnel, parce que qui dit référendum dit forcément une question simple avec une réponse oui, non. Et j'ai été le premier à dire depuis un long moment ce soir que les choses sont quand même beaucoup plus compliquées que ça, et donc il n'y a quand même pas énormément de questions, alors certaines oui, mais il n'y a pas énormément de questions qui peuvent se résoudre par un oui ou par un non, mais le référendum est quand même un moyen de pouvoir, sur certaines questions, demander à la population de trancher au cours d'un mandat. C'est une deuxième possibilité, mais encore faut-il que constitutionnellement, ce soit mis en place, et je ne suis pas sûr que chez vous, mais je ne suis pas spécialiste, ce soit tout à fait possible aujourd'hui. Donc, j'ai pas vraiment de solution, mais ce qui est, ce qui est assez incroyable, c'est que voilà, il faut. Moi, je remettrai jamais en cause la légitimité de quelqu'un qui a été élu. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est pas parce qu'on est élu qu'on est le roi du monde pendant 5 ans et qu'on fait ce qu'on veut et qu'on se moque de la population. Donc c'est ça qui est important. Il faut garder le contact, il faut garder l'évolution, il faut garder la discussion, il faut découvrir ça.
Nicolas, juste rapidement.
Je crois qu'il faut faire une distinction entre la nécessité de la participation du peuple par un mouvement civil, par les manifestations, quand des principes fondamentaux sont en jeu. Là, le principe fondamental, si j'ai bien compris, c'est que votre président voulait faire un troisième mandat. Espérons que ça ne donne pas trop d'idées à d'autres présidents. Bon. Non, donc on allait vers un pouvoir perpétuel façon Xi Jinping chinois, parce que le président chinois, c'est ce qu'il a fait. Donc là, il y avait un principe en jeu, et tant mieux si le mouvement a, malheureusement il y a eu les morts, tant mieux si le mouvement a réussi. Mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose qu'on soit un citoyen, j'allais dire un citoyen dormant pendant 4-5 ans, on accumule nos informations, parce que le reste du temps, on est aussi la tête dans le guidon dans notre travail, notre vie de famille. On n'est pas des citoyens actifs, ça n'est pas vrai. On n'est pas des citoyens athéniens ou romains. Ça, c'est un mythe du gouvernement du peuple par le peuple. Hein, je provoque un peu. En fait, on est dans autre chose. On est dans la modernité où il vaut mieux rester ainsi. Quand je dis de dormant, vous avez compris, c'est dormant, mais d'un seul œil. Hein. Quand il y a un principe fondamental qui est en jeu, on se réveille. Mais le reste du temps, on est dormant, mais on entend quand même. Et puis le jour de l'élection, on fait le bilan.
Ça s'appelle la démocratie représentative, en l'occurrence.
Voilà.
Il n'y a pas de mandat impératif. Voilà. Question de la salle ? Monsieur ?
Alors, à la fois, je suis un peu affolé et à la fois, ça m'amuse beaucoup. Et j'aurais une question. Quand on réforme l'éducation nationale, les lycéens sont dehors. Quand on réforme l'université, les universités sont dehors. Quand on réforme des aspects sociaux, les travailleurs vont être dans la rue. Quand on réforme le chômage, les représentants syndicaux vont défendre le morceau. Et quand on défend les retraites, il n'y a pas beaucoup de retraités dans la rue qui sont visés par le sujet. Par sympathie, ils y vont sans doute, mais c'est étonnant que la réforme des retraites aujourd'hui ne traite pas des retraités. Alors, en revanche, elle met le doigt sur quelque chose qui n'est pas la retraite, mais le travail des seniors, et que c'est pas le même sujet. À mon sens, c'est pas le même sujet, il y a donc confusion. Qui est la moitié des chômeurs qui passent à la retraite, c'est un phénomène administratif et financier fort sympathique. Ceci explique en cela, puisque c'est un avantage pour les chômeurs, en tout cas en fin de chômage. Donc ceci peut expliquer cela sur les quantités. On brouille les pistes, et je vais prendre simplement l'exemple que vous avez donné en disant faut-il attendre 67 ans pour avoir sa retraite à taux plein. Le citoyen lambda, ce qu'il va savoir, c'est ce que ça veut dire, la retraite à taux plein. Il ne faut pas qu'il confonde avec des promesses à 1 200 €, parce que peut-être qu'il en touchera que 300. Donc c'est, on embrouille les pistes, et quand on vous écoute, si j'écoute Monsieur Nicolas Richelieu qui m'a l'air loin d'être sot, reconnaît lui-même que sa retraite est proche, mais qu'il est déjà devant un brouillard. Bon, et moi qui viens de l'apprendre, j'ai confiance dans le système, mais c'est vrai que les choses ne sont pas calées. Et donc je trouve que simplement sur la réforme des retraites, c'est mal positionné, c'est mal posé, et les gens qui manifestent, je suis surpris de savoir. Qui savent avant de réformer, ça veut dire qu'ils connaissent la forme. Ma question, je voudrais sauter vers la question. Mais je suis venu parce que quelle modalité pour un choix démocratique ? Vous n'y avez pas répondu. Et c'était quand même.
C'était Madame, la question vient compléter celle-là ou pas ?
Non.
Attendez une seconde.
Vincent,
Nicolas, allez-y. Oui.
Juste pour vous répondre, monsieur, ce qu'on a répondu quand même pour les modalités, c'est qu'on a répondu, enfin j'ai répondu la modalité 5e République, hein, version de Gaulle, Debré, forceps, institutionnellement, instrumentalement, ça peut marcher. Ça marche actuellement, le 47.1, voire peut-être le 49.3. Donc, ces instruments existent et ça peut marcher. C'est pas satisfaisant d'un point de vue plus éthique, plus large, plus démocratique. Mais ça peut marcher. La démocratie sociale, elle a été jouée, hein, si je peux me permettre le mot, elle a été jouée comme au théâtre, mais c'est pas la filière que M. Macron ou Mme Borne, qui a pourtant une fibre sociale, a finalement jouée. Voilà. Reste la troisième filière, qui serait la filière du mouvement social, si lui réussit, mais ce sera le retrait. Et on est tous d'accord pour dire que s'il y a un retrait, il y aura une réforme des retraites à repenser presque dès le lendemain. C'est le jour sans fin. Donc pour le moment, si vous voulez, il n'y a pas de filière démocratique idéale, hein, parce qu'il faudrait cocher... La filière démocratique idéale, il faudrait cocher la case négociation sociale, débat parlementaire qui fait la loi, et puis... au fond, le pouvoir exécutif qui reprend son vieux concept de j'exécute la volonté exprimée par une assemblée.
Je crois juste pour ajouter un mot que c'est un peu ce que j'ai dit en disant que chaque institution doit être respectée. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que normalement, on doit avoir avant toute loi un dialogue social et donc des négociations. Vous êtes bien rendu compte que ça fait un petit moment qu'on n'est plus dans les négociations. On a même oublié le nom. On parle de concertation. Et je crois que Nicolas l'a dit. On a plus l'impression d'ailleurs que c'est un passage obligé pour dire on l'a fait plutôt que quelque chose d'utile, nécessaire auquel on croit. Donc c'est quand même un vrai problème. La négociation sociale a un véritable intérêt. Et quand on passe de la négociation à, je vous informe, on se concerte, comme ça je peux dire que je l'ai fait, mais en fait, ce qui s'y passe, on s'en fout parce que ça a été décidé avant même de commencer les négociations. C'est un premier problème. Le deuxième, c'était au niveau parlementaire, et encore Nicolas l'a dit, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a un Parlement qui fonctionne comme il devrait fonctionner? Moi, je crois pas. On n'a plus de débat au Parlement. On a des invectives des uns contre les autres, et de toute façon, c'est... Si un dit blanc, on doit dire noir, il n'y a que ça qui compte, et c'est la petite phrase, le buzz, et surtout, aujourd'hui, de pouvoir faire le tweet dans les 5 minutes qui suivent. Voilà, y compris en commission. Juste pour l'anecdote, mais ce matin, on était en intersyndical pour décider de la date de la négociation. On se dit entre nous, ça sera le 16, on va faire un communiqué à l'AFP qui va partir à 11h30, on décide que ce soit l'UNSA, c'est à tour de rôle qui fasse le communiqué. Évidemment, il y en a un autour de la table, je ne citerai pas le nom, ça je suis désagréable avec personne, qui pendant qu'on est en train de dire, on le dit à personne, ça sera 11h30, parce que France Inter lui a promis de passer à 14h à la radio, fait un SMS à France Inter, pendant qu'on est en train de se dire collectivement, tous d'accord, qu'on ne dit rien jusqu'à 11h30, et c'était 9h30. Bon, voyez, ça vous montre les choses. Voilà. Et on a un exécutif, qui considère qu'il a les pleins pouvoirs parce qu'il a été élu une fois tous les 5 ans, et donc ça lui permet de faire ce qu'il veut pendant les 5 ans. Donc la question est là, c'est que chaque instance aujourd'hui, et je crois que toutes les instances de la 5e République sont plutôt bien placées. Moi, je suis pas, contrairement à Nicolas, je trouve que la 5e République, elle est pas si mal que ça, mais elle est pas si mal que ça, à condition que chacun soit à sa place, chacun soit respecté. Aujourd'hui. Je ne sais pas si après la bordélisation de l'Assemblée, c'est la bordélisation des modalités démocratiques, mais il n'y a plus une instance qui joue le rôle réel qu'elle devrait jouer. C'est ça le problème. Et donc, sauf l'exécutif. Okay. C'est ce qui marche le mieux, mais voilà, le LA, c'est là. Et c'est là le problème.
Ciel, on va passer la parole à madame.
Oui, moi je suis extrêmement surprise qu'aucun d'entre vous n'est parlé des réseaux sociaux qui, en effet...
Les réseaux sociaux.
Oui.
Parlé plusieurs fois de Twitter, moi.
Pour le crâne de chacun, vous avez effleuré quand vous avez parlé de SMS et de tweets pour prendre des décisions. Est-ce que ce n'est pas un obstacle terrible en ce moment à la démocratie, à la vraie discussion, Vous parliez aussi de cet aspect immédiateté, de cet aspect, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'extrêmement important dans la période que nous vivons et notre avenir aussi, j'en ai peur, quelque chose qui brouille toutes les pistes et qui conforte les gens dans les opinions qu'ils ont déjà et qui les empêche de réfléchir, de se concerter, de s'ouvrir. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement important en ce moment ?
C'est extrêmement important. Je suis d'accord à 3000% avec vous. Les réseaux sociaux, même dans leur conception, le principe de Twitter, mais d'autres réseaux sociaux, c'est vous avez un nombre de caractères qui est limité. C'est, grosso modo, c'est 3 lignes. C'est 62 caractères. Donc ça veut dire que il faut pas rentrer dans le détail, il faut pas donner une idée intéressante, il faut faire une phrase clé, une phrase buzz. Donc ça bloque tout, ça empêche tout raisonnement. Et c'est pour ça que je disais, on est dans la recherche du buzz, on est dans la recherche de l'immédiateté, on est les réseaux sociaux. Et je veux dire une chose, je suis en train de vous dire ça, quand j'ai été élu président, la semaine d'après, j'ai été obligé d'aller sur Twitter. Et je veux même dire quelque chose d'encore plus marrant. C'est-à-dire que le nombre d'invitations presse que je peux avoir dépend en partie, parce qu'il y a aussi peut-être un peu de mon talent ou pas d'ailleurs, qui me fait inviter ou pas, mais dépend en partie du nombre de personnes qui vous suivent sur Twitter, c'est-à-dire qui vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est même pas à la limite au départ. Alors, au bout d'un moment quand même, on se rend compte si c'est intéressant ou pas ce que vous racontez ou si vous parlez bien ou pas, mais à la base, c'est y compris le réseau social qui fournit le nombre d'invitations que vous avez dans les journaux télévisés et radio. Enfin, vous vous rendez compte du truc complètement complètement dingue. Et moi qui ai un attaché de presse, je vous avoue tout, c'est la grande confession aujourd'hui, mais j'ai même quelqu'un qui gère les réseaux sociaux, parce qu'on est obligé aujourd'hui, parce que si j'ai pas ça, de toute façon je suis mort, parce que ça se passe comme ça. Et donc une partie de son travail permanent, mais j'en suis catastrophé, hein, donc vous voyez, je me auto-flagelle. C'est de regarder en permanence les déclarations des uns des autres, et en permanence ils viennent dans mon bureau, d'ailleurs c'est presque un peu saoulant, me disant « Ah là, il y a tel truc, si on réagit là, ça fait le buzz, là il y a telle phrase, si on réagit là, on gagne 200 adhérents, donc si on gagne 200, pas 200 adhérents, 200 followers, et donc si on gagne 200 followers, au lieu de passer une fois tous les 3 semaines sur France Inter, tu passes 2 fois par semaine. » Enfin, mais vous voyez le truc, quoi. Voilà. Alors heureusement que on essaye de faire autre chose, mais vous avez complètement raison. C'est la folie des réseaux, c'est la folie de l'immédiateté que j'ai parlé, c'est la folie de la petite phrase, et les débats de fond sont de plus en plus pauvres. Les débats de fond sont de plus en plus pauvres, et c'est ça qui est le plus grave.
Alors, on a eu de la chance, on a eu un débat de fond ce soir, donc c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup à tous ici à distance.